Espion, espionne, agent secret et indicatrice, Mata Hari, James Bond, la CIA, le KGB, le Mossad sont devenus, depuis l'universale araignée de Louis XI, en passant par le secret du roi ou les barbouzes, les 39 marches ou le bureau des légendes, des acteurs incontournables des médias, du cinéma et des faits divers. Tout comme le crime et la figure du criminel, l'univers de l'espionnage et du renseignement fascine et intrigue. Il est l'objet de nombreux fantasmes, car tout est censé y être secret, dissimulé, avec parfois un usage de la force à la limite de la légalité, des actions et des méthodes souvent opaques pour le commun des mortels. Pourtant, le renseignement tend de plus en plus à sortir de l'ombre et à s'émanciper de sa face obscure. Il cherche à échapper au mythe de 007 et aux actions clandestines, afin de s'imposer, même avec une place singulière, comme un service public à part entière, indispensable à la protection de la population et des intérêts de l'État et de la démocratie. Espionnage, contre-espionnage et antiterrorisme sont les trois cultures essentielles du renseignement. Collecter, analyser et agir en constituent les trois actions primordiales. Mais le renseignement n'a de valeur ajoutée que s'il est rare. Généralement, tout ce qui est rare est recherché et utile pour satisfaire un besoin, finalité du renseignement. Parce qu'il est l'expression d'un besoin, le renseignement est souvent la manifestation d'une prise de conscience du pouvoir politique face à une menace vitale. Des agents s'infiltrent, écoutent, recueillent, transmettent, informent et désinforment, séduisent, enlèvent ou tuent dans l'intérêt supérieur des États qui les emploient. Telle est la raison d'être de l'espionnage et du contre-espionnage. Il s'agit de préserver, protéger l'État et, à certaines époques, uniquement le monarque, ou dans les régimes criminels, d'être un instrument de terreur permettant de mettre hors d'état de nuire les opposants. Dans une démocratie, cette activité a pour objectif de contribuer à la sécurité nationale. Mais s'il est légitime pour la plupart des États qui en usent, il est en revanche considéré comme une infraction grave pour les États qui en sont les victimes. Les États espionnent, mais refusent d'être espionnés. C'est l'un des paradoxes de l'espionnage. Et c'est aussi pour cela que, généralement, les histoires d'espionnage se règlent plus de manière bilatérale et discrète que devant les tribunaux. La Convention de Genève, relative au traitement des prisonniers de guerre, exclut les espions de la protection due à ces captifs. Le règlement de La Haye du 18 octobre 1907 sur les lois de la guerre fixe les caractéristiques de l'espionnage. L'espion est défini comme l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opération d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. Les responsables politiques ont aussi compris tout l'intérêt qu'il y avait à mieux réglementer l'activité de renseignement et, concomitamment, à mieux la faire connaître en vue de conforter sa légitimité en tant que fonction stratégique majeure. C'est aussi pour cela, et au regard de la sophistication des technologies et des moyens de collecte de l'information, que si beaucoup d'agents ou d'informateurs sont recrutés en fonction des situations et sur les territoires ciblés par les agences, les opérateurs et opératrices du renseignement sont aujourd'hui des professionnels formés et entraînés à l'action, à l'infiltration, à la manipulation et surtout à l'analyse. C'est ainsi que la notion même de renseignement a progressivement supplanté celle d'espionnage. Le renseignement est considéré comme une fonction régalienne et un instrument de souveraineté et de protection. Il est au cœur des stratégies étatiques visant d'une part à protéger la population contre des menaces physiques, type terrorisme, mais aussi à entraver les actions cherchant à piller notre patrimoine économique, industriel ou scientifique. À propos de ce livre audio, ce livre audio a pour objectif de démystifier la figure de l'espion, partiellement, car il est toujours utile de conserver une part de mystère, et de présenter les principales caractéristiques des services de renseignement, leur histoire, leur organisation, leur méthode ou encore les affaires qui les ont marquées. Si cet ouvrage porte principalement sur les services français, il nous est néanmoins apparu essentiel de pouvoir illustrer certains pans des activités d'espionnage et de renseignement par des affaires ou des figures emblématiques étrangères. Les conventions utilisées dans ce livre audio. Si le renseignement peut parfois apparaître comme une activité vulgarisée, notamment par les séries et les films, en réalité il se révèle souvent bien plus complexe. Si chacun comprend le sens de l'espionnage, en revanche, recruter un agent, infiltrer un service, manipuler une source ou encore exploiter des informations collectées via des moyens technologiques s'avèrent des opérations délicates qui font parfois appel à des notions plus ardues. Nous avons donc tenté de simplifier au maximum le traitement de la matière, tout en gardant sa substantifique moelle. Nous avons par conséquent limité les termes savants, mais nous avons dû parfois faire usage de vocabulaire technique. Nous sommes toutefois persuadés que l'audiolecteur ou l'audiolectrice n'auront aucun mal à saisir l'ensemble des termes et à percer les secrets des services un peu moins secrets. Par ailleurs, lorsque nous évoquons un organisme pour la première fois, par exemple la Direction générale de la Police nationale, nous donnons son nom complet suivi de son abréviation. Dans le reste du texte, seule cette dernière sera utilisée. On pourra retrouver l'ensemble des acronymes à la fin de cet ouvrage. Comment ce livre audio est organisé ? Cet ouvrage est construit autour de 6 parties, auxquelles vient s'ajouter la classique partie des 10. Il se propose donc de dresser un état des principaux savoirs indispensables à la matière : définition des concepts, histoire, organisation des services, méthode ou encore moyens de contrôle. Il est agrémenté de nombreuses anecdotes et portraits. Première partie : espion, espionne, qui es-tu ? À quoi sert le renseignement ? Qui sont ceux qu'on appelle habituellement les espions ? Les espions espionnent-ils tout ? Existe-t-il des écoles pour former les espions ? Telles sont quelques-unes des questions préalables auxquelles tente de répondre cette partie. Deuxième partie : espion, espionne, d'où viens-tu ? L'espionnage a une histoire. Les services aiment d'ailleurs à rappeler qu'il serait le deuxième plus ancien métier du monde, voire le premier. On peut souvent considérer que sa relation avec la prostitution semble relever de l'évidence, tant la confession sur l'oreiller apparaît au premier plan de la collecte du renseignement. Même si l'espionnage a profondément évolué au cours des siècles, cette activité n'en demeure pas moins très fortement liée à l'exercice du pouvoir et à l'histoire des nations et de l'État, tant pour ce qui est de ses échecs que de ses succès. C'est cette histoire que nous vous conterons dans cette partie. Troisième partie : espion, espionne, où es-tu ? Dans cette partie, on se penchera sur l'organisation actuelle de notre système de renseignement. Quels sont les services et leurs missions ? Comment travaillent-ils ensemble ? On verra aussi que si certaines organisations ne peuvent pas être considérées au sens strict comme des services de renseignement, elles contribuent pourtant en périphérie à cette activité. Quatrième partie : espion, espionne, que fais-tu ? Cette partie porte sur le fonctionnement des services. Quelles sont les sources des agences ou les techniques utilisées pour collecter de l'information ? Nous verrons notamment que si les technologies ont pris de plus en plus d'importance dans la palette d'outils à disposition des services, il n'en demeure pas moins que les sources humaines sont essentielles, tout comme la coopération avec des services étrangers. Cinquième partie : espion, espionne, qui te contrôle ? Si le renseignement est progressivement sorti de l'ombre et s'est émancipé d'une trop forte proximité avec le pouvoir politique, c'est, en plus de finalités plus restrictives, parce que les pouvoirs publics ont souhaité renforcer les modalités de contrôle des services. Cette cinquième partie y sera consacrée. Sixième partie : espion, espionne, qui te menace ? Dans cette partie, il sera question des menaces auxquelles sont confrontés les services de renseignement. Car au-delà des cibles traditionnelles, telles que les agents étrangers, les différentes agences de renseignement sont fortement mobilisées dans la lutte contre les nouvelles formes de terrorisme et les cybermenaces. Septième partie : la partie des 10. La partie des 10, incontournable de la collection, permettra tout d'abord de faire connaissance avec 10 services de renseignement étrangers, dont certains ont été fortement popularisés sur le grand ou le petit écran, tels que le MI5, la CIA ou le Mossad. Mais les services secrets sans les espions ne pourraient exister et certains d'entre eux sont tout aussi célèbres que les organisations qu'ils servaient. 10 de ces vrais espions seront ainsi présentés. L'espionnage a fait les belles heures du cinéma et de la littérature. De James Bond à OSS 117, en passant par SAS ou Malotru, qui n'a pas frissonné devant des cascades à couper le souffle et qui, parfois, ne s'est pas dit que cette vie d'espion était quand même sacrément extraordinaire. Choisir 10 faux espions a été une gageure, mais si les espions ont tant fasciné, c'est aussi parce qu'ils ont été efficacement mis en scène par des auteurs de talent. comment ne pas alors évoquer 10 auteurs de romans d'espionnage ? Enfin, parce que justement l'espionnage a inspiré la fiction et que, parfois, les deux se rejoignent, nous finirons notre périple par 10 grandes affaires d'espionnage.